Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Merci de votre fidélité. Les podcasts, ça cartonne aussi. Donc n'hésitez pas à aller nous réécouter. On met ça, mais c'est quasiment du live, notamment le débat sur Mbappé il y a quelques instants, c'était à 9h30. Vous pouvez aller réécouter tout ça sur les différentes plateformes. Dans quelques instants, les chansons des enfoirés, c'était vendredi soir qui s'attaque aux Jeux Olympiques. Est-ce un scandale? C'est le bras de fer des GG, ce sera un 2 contre 2. Esteban Ocon 17e, Pierre Gasly 18e, faut-il déjà faire une croix sur les Alpines cette saison? On va débriefer le premier Grand Prix de la saison à 10h30 avec notre expert Jean-Luc Croix. Les week-ends de Julien Alaphilippe qui se suivent et se ressemblent, le champion français a encore chuté, il a encore abandonné. Patrick Lefebvre l'a-t-il tué? On va ouvrir le débat à 11h et puis il y aura le zapping des GG évidemment. 10h45, on reviendra sur la remontée, peut-être la remontada fantastique de l'Olympique de Marseille, 3e victoire de suite, toute compétition confondue. Mais on va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Benjamin Biolay qui a dit un jour: une chanson pas finie, ça s'entend tellement.
RMC, le bras de fer GG.
Les JO bloqués dans le métro, ça va être un énorme bordel tous les deux. On va vivre un enfer, à pied en caisse, en RER. Bienvenue au JO de Paris.
Elle sent le vomi, les vieilles poubelles, la Seine, la Seine, la Seine. Si tu sais, tu sais.
Voici le SOS d'un grand sportif en détresse.
Je n'ai jamais arrivé au stade.
Je suis coincé dans le bouchon, derrière les camions.
Ah, je vois quelques GG qui se marrent et d'autres qui ne rigolent pas du tout. Je pense que c'est l'objet de notre débat. Vendredi, à l'occasion de leur traditionnel show annuel depuis Bordeaux, les enfoirés ont multiplié, vous l'avez entendu, en chanson, les allusions et les piques contre les Jeux Olympiques de Paris. Autre extrait choisi, je vous le livre. Cet été à Paris, les hôtels sont hors de prix. Moi, j'ai loué mon studio 14 000 euros. Tu as du temps d'été pour acheter un seul petit billet, plus de 1 000 euros pour du taekwondo. Bref. Beaucoup de chansons, ou encore les Français n'ont aucune chance de médaille, mais on va quand même kiffer. Dans le coin gauche, la team, c'est un scandale. David Douillet, Jérôme Pinault. Dans le coin droit, la team, ce n'est pas un scandale. Fred Weiss, Simon Dutin. Avant de vous entendre, je vous propose d'écouter, c'est tout chaud. Ça vient d'arriver, c'est la réaction de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. On vient de lui poser la question sur ses chansons des enfoirés. Réponse.
Non, je crois qu'il faut avoir de la distance. C'est un sketch qui était humoristique. Bon, voilà. D'abord, je retiens que c'est des grands artistes, qu'ils se battent pour une noble cause qui est celle des Restos du Cœur. On a besoin de cette générosité, de cet engagement. Bon, est-ce que c'est le sketch que j'ai préféré de toute l'histoire des Enfoirés? Je ne dirais pas ça. Mais en même temps, voilà, je pense que ça traduit en fait la volonté qu'on a tous, que tout ça se passe bien. Je pense que tout ça, ça traduit, vous savez, des attentes, c'est normal. Il y a des inquiétudes des Français, des Franciliens sur l'impact sur le quotidien. On fait en sorte, en équipe, vraiment d'être en train de préparer des formidables Jeux Olympiques et Paralympiques, de tenir compte de la nécessité de minimiser les impacts sur le quotidien et en même temps d'organiser de grands Jeux avec un maximum d'ambition.
C'est ce qu'on appelle faire de la politique. Thèse, antithèse, synthèse. Je vais pas venir te voir tout de suite, Jérôme, là-dessus. Je vous donne le sondage, hein, tout de même, que l'on vous pose depuis ce matin. C'est ce bras de fer des GG. Pour vous, c'est très serré, hein. C'est 46%, c'est un scandale. 54%, ce n'est pas un scandale. Donc, la team scandale, Jérôme Pinault, David Douillet, vous allez commencer. Jérôme Pinault.
Non, moi, je trouve que c'est scandaleux dans le sens où c'est remettre une pièce dans cette allergie populaire qu'on est en train de donner au JO de Paris. On devrait être dans un pays en fête qui va accueillir la plus belle compétition et plus beau événement sportif au monde. Et on est en train de mettre la dep à tout le monde et toujours se plaindre de tout. Et où je trouve que c'est scandaleux, c'est que ce spectacle-là, pour une noble cause que je soutiendrai toujours, s'adresse au peuple. Les gens qui regardent ça, c'est les gens qui vont dire « Ah bah lui, il a dit que c'était de la merde, donc on va dire comme lui. » Ils se rendent pas compte de ça. Et c'est les mêmes qui vont pigner pour aller à Roland voir la finale du tennis et compagnie. Ça me gêne. Ça me gêne parce qu'on continue à taper sur les jeux, à se dire qu'on est un pays de merde, à se dire « Mais cassez-vous les mecs !» Alors qu'on ne vous voit plus là, en fait. C'est ça le truc. Les jeux, c'est humoristique quand j'entends la ministre. Bon, laisse tomber. Si c'est le rapport que j'ai avec les politiques, et de plus en plus, m'écœurent-ils tous et toutes. Mais quand j'entends son discours, c'est pas grave. Ah bon, c'est pas grave. Ben, elle se rend pas compte que c'est en train de devenir une vérité.
Oh, parce
que...
on peut saluer l'ouverture d'esprit de notre ministre. On attendait peut-être
la politique. Forcément. Je te rappelle que la ville de Paris,
nous, avec Fred, on fait une place volontiers à notre ministre des Sports, mais on l'avait pas budgété, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai été agréablement surpris d'entendre que on se place sur le ton de la légèreté. Il faut pas donner trop d'importance.
Tant qu'à faire, je préfère ne pas être d'accord.
Avec les casseroles qu'elle a, ce serait un peu compliqué.
Je suis fier d'être de son côté.
Que ça fasse marrer les gens. Non, moi, t'as le droit de trouver que les vannes elles sont bonnes ou pas bonnes. Il y en a qui sont marrantes, il y en a qui sont pas marrantes.
Mais est-ce que tu penses
que vraiment le concert des Enfoirés, il va avoir une influence sur les gens? Les gens depuis hier matin, ils se disent ah ouais, Michael Youn, il a raison. Franchement, ça va nous gâcher la vie. C'est nul.
Non, parce que ça
part comme ça,
c'est
bon. Oui, mais en gros,
c'est parce qu'ils valident quelque chose qu'on pense depuis des mois.
Les organisateurs,
chaque émission sur les jeux, chaque fois qu'on parle des jeux,
ce sont les organisateurs et le pouvoir exécutif.
On n'a pas de chance de médaille et d'où enfin c'est
non, mais,
délire.
Non, mais les organisateurs
qui sont-ils pour mettre ça
les organisateurs et l'exécutif ce sont eux qui grossissent le trait depuis plusieurs mois. Il faudrait qu'on sorte avec le maquillage, les plumes, en dansant tous les matins, parce que en juillet il y aura les jeux. Il y a des gens qui bossent tous les jours, il y a des gens qui pensent à boucler leur budget. Ça va, les jeux ça va être super, mais bon, il y a des gens qui ont le droit aussi de penser aux problèmes qu'ils vont rencontrer dans les transports.
Ouais, mais t'es pas obligé de parler que de ça, Simon. Le problème c'est que ils ont plusieurs chansons et tu fais une chanson sur ça. Effectivement, c'est
attends, mais t'es dans quel camp
de se moquer, etc. Je suis d'accord, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que ce soit pas un scandale. Il n'y a pas de scandale dans ça. Mais
c'est le côté scandaleux.
Mais, oui, c'est le côté scandaleux qui me dérange. Parce qu'il n'y a pas de scandale dans ça. Moi, voir des ringards en train de chanter des chansons pourries.
Je t'ai pas dit que ça me faisait marrer, je te dis juste que c'est pas grave.
Je pense que tu minimises l'impact
attaquer, moi ça me dérange. Oh. Moi ça me dérange d'attaquer systématiquement. Si tu fais 5 sketchs, t'en fais 4 qui sont plutôt positifs, 1 négatif, au contraire, j'aurais ri. Là c'est vraiment attaquer pour attaquer.
Ça fait de l'acharnement.
Mais oui, ça fait de l'acharnement.
Très orientation politique. Très orientation politique.
On n'a encore pas compris dans quel camp était Fred Weiss. Tu vas nous redire tout ça dans quelques instants. Dis-moi, tu es dans le camp du scandale, toi, David Douillet?
Ouais, mais pas, j'ai pas la même vision. J'ai pas la même vision parce que.
Ça nous aurait étonné.
Oui, tu sais, je suis là pour apporter des choses nouvelles. Je trouve que ils ont fait du gros rouge qui tâche. Ils sont allés dans la facilité. C'est-à-dire que ils ont besoin de faire du buzz. Ils ont besoin de faire du buzz. Pourquoi? Parce que les Restos du Cœur, ça décline.
Oui.
Ouais, voilà, c'est pas la grande forme.
Les Restos du Cœur. C'est de la démagogie, David. C'est de la démagogie.
Non, mais Fred, t'es trop dur. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas des has-beens qui chantent sur scène, etc., etc. C'est des gens qui ont prouvé. Non, c'est des gens qui ont prouvé depuis des années qu'ils sont pour une cause et que moi je soutiens aussi et que j'espère que tout le monde sur ce plateau soutient. On a besoin des Restos du Cœur. Ce qui a fait Coluche, c'est un truc extraordinaire et il faut que ça continue. Il faut que ça continue avec force. Mais mais les copains, les enfoirés, ça sert à rien de faire du buzz, de s'attaquer aux JO, etc. D'ailleurs, je trouve qu'on s'attaque plus à la mairie de Paris qu'aux JO.
Mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je dis ça.
On parle des transports, on parle de trucs, etc.
C'est politique. C'est pas politique.
Parce que quand t'as un taxi, un Uber. Non, je défends personne, mais moi, j'écoute les gens et tu vois, je suis dans le peuple aujourd'hui, très clairement. Et quand t'entends les Uber, les ceux qui viennent livrer, les taxis, etc., qui n'en peuvent plus de circuler dans Paris. Et c'est pas à cause des JO, hein. C'est les travaux qui sont.
En ce moment, c'est le salon de l'agriculture, c'est le même bordel, hein.
Ouais, non, enfin, tout le monde connaît la situation de Paris. Paris est sclérosé par les travaux, les chantiers qui n'avancent même pas, hein, qui sont bornés, etc. Et où il y a pas un ouvrier sur les chantiers, personne ne comprend. Et Paris est complètement sclérosé. C'est surtout ça qui est attaqué. Mais je trouve que ils auraient dû prendre les choses un peu autrement. Ok, vous voulez faire du buzz, mais pas comme ça. C'est idiot. C'est idiot de se mettre à dos la famille des sportifs et la famille olympique, parce que c'est ce qui risque de se passer, malheureusement. Et ils en ont pas besoin. Ils auraient été beaucoup plus inspirés que de mobiliser, parce que ils sont leur petit groupe d'enfoirés, là, mais d'agrandir le groupe d'enfoirés, d'aller voir tous les sélectionnés olympiques
et de leur dire. Ils le feront l'année prochaine quand ils auront des médailles. J'espère que les médaillés n'iront pas.
Non, j'espère que tous les médias y iront. Et si on vous demande à nous tous, là, si on nous demande d'y aller, il faudra qu'on y aille parce que la cause est noble et il faut les soutenir. Mais de faire de cette team olympique un énorme porte-voix pour porter la cause au plus haut, ça aurait été beaucoup plus intelligent à mon goût. Voilà, c'est tout.
Simon Dutin.
T'as fait danser avec les stars, non? Peut-être qu'ils vont t'appeler un de ces jours.
Mais David, il a fait les enfoirés.
Simon, moi j'ai fait les enfoirés aussi. Mais Simon, je sais que tu regrettes, tu es un piètre danseur et tu regrettes de ne pas avoir fait cette émission.
Ouais, mais je te
donnerai tous les contacts pour le faire.
Je crois pas que ce soit pour ça qu'ils ne m'ont pas appelé. Je pense que c'est un problème de notoriété.
Non. Ton problème, Simon, c'est ton corps dans l'espace.
Simon, sur le débat.
Je pensais que Jérôme marque un point lorsqu'il dit que, tu sais, les artistes traditionnellement un petit peu de gauche et un petit peu dans la France, parfois un petit peu démagos, ont voulu se farcir effectivement plus la mairie de Paris que le comité d'organisation. Donc il n'est pas exclu que ce soit à ce titre qu'ils aient forcé un petit peu le trait. Je suis d'accord avec Fred. Moi, je découvre ce matin.
Un peu d'accord avec tout le monde.
On en a parlé hier. Mais tout le monde est un petit peu d'accord. Gentil. Finalement, l'amour l'emporte dans ce plateau, vous avez remarqué, dans cette émission. Effectivement, peut-être un peu too much. La question, c'est est-ce que ça va changer la perception qu'on a des jeux, des compétitions? Est-ce que ça va fausser tout ça? Je ne pense pas.
Moi, je trouve que la petite musique, elle est lancinante, là.
Ouais.
C'est ça,
c'est
du gros rouge qui tâche.
C'est
du gros rouge qui tâche.
Je vais essayer.
C'est pas très élégant.
T'as quasiment 10 millions de personnes et tu leur rabâches, parce que c'est pas qu'une chanson, vous l'avez entendu.
Ça parle du sportif aussi.
Tu balances. Et je reviendrai sur le sportif dans quelques instants. Tu n'arrêtes pas avec ce message. Alors oui, il y a des bonnes punchlines, mais je suis d'accord aussi avec David, il y a beaucoup de facilité quand même.
Oui, je t'ai dit. Franchement, il y a beaucoup de facilité. Je t'ai pas dit que c'était exceptionnel, je t'ai pas dit que ça me faisait marrer. Je te dis juste que c'est pas grave, c'est pas très intelligent, mais n'en faisons pas. Et David a raison de rappeler, on l'a dit hier, les Restos du Cœur, allez donner à bouffer, allez au supermarché, des couches.
Pour moi, c'est ça le scandale. Le scandale, c'est qu'il y a des gens qui crèvent de faim chez nous maintenant.
Donc
c'est pas un scandale que des mecs chantent des conneries. Je te dis, les mecs qui comprennent rien ne respectent pas le sport. C'est des artistes soi-disant populaires. Le sport, c'est populaire et malgré ça, ils l'attaquent. Je comprends pas du tout. Effectivement, il faut en plus passer des messages politiques. Moi, je trouve ça.
C'est un scandale.
Nul, mais c'est pas un scandale.
Ok. Alors, sur le sportif, parce qu'on parle et on dérive sur la politique, forcément. Sur le sportif, le clou du spectacle, c'était Antoine Dupont sur scène.
Là, c'est ridicule.
Et les enfoirés ne voient que lui pour gagner une médaille. On écoute. C'était la bonne vanne, je trouve. C'est Antoine Dupont, enfin s'il se pète pas le menton. Franchement, je trouve que là, c'est une bonne vanne.
Alors maintenant, c'est une bonne vanne.
Non mais là c'est une bonne vanne sur, oui, sur Antoine Dupont. Oui. C'était une référence à sa Coupe du Monde, même si c'était pas le menton.
Moi aussi, j'adore cette chanson là, justement. Ah, moi je trouve qu'elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est décrédibilise complètement, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien au sport,
ouais,
qu'ils l'assument pas. Moi je trouve ça génial. Cette vanne me plaît par contre.
Ok, Jérôme, t'as pas aimé ça?
Non, parce que j'ai pas aimé, parce qu'en plus j'ai pas senti Antoine Dupont du tout à son aise. Quand tu es le seul sportif invité dans un spectacle où tu
il y avait aussi Chabal, Sébastien Chabal et Esteban Ocon.
Et pour le coup. À moins que la F1, non, on va demander à Jean-Luc, mais je pense pas.
Non, la F1 sera pas aux Jeux Olympiques.
Non, moi ça me met mal à l'aise tout ça, parce que justement, là encore, ils mettent Dupont en avant, c'est un peu le truc touchy du moment, Dupont qui quitte son équipe de France pour aller. Ils ont tout faux sur toute la ligne, ils ont faux. Non, même moi, là encore, ils mettent en scène. Et on sent que Dupont, il est pas à l'aise, c'est pas son truc, et ils le mettent pas en avant, ils le mettent pas en valeur, ils le mettent là. Pour dire, toi, tu vas être le seul mec, mais ils attaquent le sport. Mais ils connaissent quoi au sport?
Et Youn
est rendu sans arrêt, Michael Youn, au Parc des Princes. S'il aimait que la gagne, faut qu'il change de stade, le mec. Donc, tu peux aussi lui dire, mec, soit tu supportes, soit tu la fermes. Mais ne parle pas des seules chances de médaille. Moi, il connaît pas ce qui se passe.
Ça veut dire qu'ils connaissent pas bien le sport.
Je trouve que c'est génial. Ça veut dire que vraiment, ça prouve à tout le monde qu'ils n'y connaissent rien.
Mais s'ils parlent entre eux, frère, s'ils parlent de ça entre eux autour d'une table avec un bon vieux.
C'est complètement débile.
Il y a des millions de personnes. Il est là le problème.
David Douillet.
Ce qui me pose un problème, c'est qu'ils se sont trompés de stratégie. Parce que la vérité dans tout ça, c'est comment rendre plus efficace les Restos du Cœur. Voilà, c'est ça le truc. Et d'avoir pris cet angle-là, c'est une mauvaise posture. Une mauvaise posture parce que en France, t'as 17 millions de licenciés qui sont dans des clubs, etc., etc. Et c'est un risque de se mettre à dos beaucoup de personnes.
Donc
c'est
beaucoup couillon. De licenciés, c'est... David, les parents se saignent pour pouvoir acheter la licence.
Bien sûr.
Et
absolument.
Et les équipements,
etc., etc. Donc, je trouve que, voilà, ils sont pas dans l'efficacité du Resto du Cœur. Donc, il faut rattraper le truc, je crois, pour eux, pour rendre l'histoire beaucoup plus efficace et partir sur autre chose que ça. Parce que là, ils se tirent une balle dans le pied, je crois. C'est dommage parce que il faut soutenir cette association. Je crois qu'on est tous d'accord pour ça.
Ça, on est tous d'accord pour le dire, sûr. Évidemment. Soutenons les Restos du Cœur. Certains étaient indignés, d'autres ont trouvé que c'était de l'humour. C'est le cas de Cathy qui a composé le 32-16. Bonjour, Cathy.
Bonjour.
Bienvenue dans les grandes gueules du sport, Cathy. Bon, j'imagine que c'est pas un scandale pour toi.
Mais pas du tout. Moi, je me dis, bon, heureusement qu'on a des avis différents. Malheureusement, c'est une société actuellement où on ne peut rien dire parce que tout est de suite critiqué. Alors, je comprends que les sportifs soient touchés. Moi, je trouve que justement, c'est de leur part accorder de l'importance au JO. Alors, à la façon, sûrement maladroitement par rapport à la société actuelle, mais c'est tout à fait ce qu'aurait pu faire Coluche il y a 35 ans. Bon, il n'y avait pas de JO.
Il ne serait pas tombé dans tant de facilité, je me permets de
s'en rappeler. Il ne serait pas drôle.
Le problème de l'humour, c'est qu'il faut que ça soit drôle, et moi, je n'ai pas trouvé ça si drôle que ça.
Alors, moi, je vais vous dire, Coluche, franchement, c'est tout à fait ce qu'il aurait pu faire. Et là, il aurait été critiqué aussi. Mais au bout du bout, avec des années passées, on aurait trouvé un Coluche super. Alors moi, je trouve franchement que ce sketch, enfin cette chanson, eh ben quand elle a été chantée, sur le coup, je me suis dit oulala, là ça va y avoir des problèmes. Et puis j'ai entendu le public rire. Si vous entendez le public, il n'y a eu aucun sifflet, tout le monde a ri. Dans le public, tout le monde avait la patate, et je me suis dit mais. Voilà, qu'est-ce qu'ils attendaient les gens ce soir-là après 30 ans?
Parce qu'ils sont emmenés par la mélodie, ils sont emmenés par les stars qui sont là, c'est normal.
Après 35 ans des enfoirés, ils voulaient encore un spectacle où bien sûr il y a la cause derrière, mais où ils voulaient donner, ils voulaient.
Madame, ne croyez-vous pas que si demain ils élargissent le clan des enfoirés à l'ensemble de ceux qui vont concourir aux Jeux Olympiques et qui vont les promouvoir dans toute la France, dans toutes les villes, devenant même des responsables locaux, etc., etc., ça sera pas plus efficace, sincèrement?
Oh ben oui, peut-être, tout à fait.
Eh ben oui, ben voilà, c'est évident.
C'est autre chose, tout à fait.
En fait, vous savez, il y a un truc. Il y a un truc qui est simple, Charles.
Que par rapport à ça, c'est vrai, on peut toujours critiquer. Bon, ils l'ont fait maladroitement, et ça, je le pense très sincèrement. Mais moi, ça va pas me donner, je vais pas me dire, je vais pas aller au JO parce que j'ai entendu cette chanson. Ben, au contraire.
Non, mais bien sûr.
Ça m'a fait peut-être davantage, vous voyez?
globalement la philosophie. Quand on fait quelque chose d'extrêmement positif, comme les Restos du Cœur, il faut amener des choses positives. Or là, c'est quelque chose d'assez négatif malgré tout. Et le négatif avec le positif, on le sait, hein, dans les lois mathématiques, ça donne du moins. Voilà. Et alors que s'il s'était porté du côté positif par rapport au monde du sport, plus le côté positif par rapport au monde caritatif, ça aurait été mille fois plus efficace. Donc pour moi, c'est une erreur de stratégie. Très clair.
Merci beaucoup.
C'est juste pour faire du buzz.
Merci Cathy d'avoir été avec nous au 32-16, d'avoir débattu comme ça avec David Douillet. Ça n'arrive pas
belle
tous les jours.
Belle discussion entre Cathy.
Bravo.
Et David. Au tableau avec David Douillet.
Ouais, on termine ce bras de fer des GG avec ce résultat. Finalement, nous sommes à 55-45. 55, ce n'était pas un scandale. 45, c'était un scandale. Et puis, je réponds quand même à ce qu'on nous dit parfois aussi sur les réseaux sociaux. Là, on ne peut plus rien dire. Je ne crois pas qu'on soit dans l'idée du on ne peut plus rien dire sur cette chanson-là. C'est juste que, est-ce que c'était leur rôle? C'est plus là où on se pose la question. Est-ce que c'était
jusqu'à
leur rôle
aller critiquer les prix de certaines choses, si ça profite à des causes, il me semble que leur spectacle n'est pas gratuit, ça profite à une cause. Les jeux, ça va profiter après, derrière, des installations aux sportifs, etc. Franchement, ils auraient mieux fait de faire autre chose ou de le faire bien. Mais là, c'était un peu.
Ok. Tordu. Bon, on a compris en tout cas votre sentiment. Vous n'êtes pas d'accord sur ce débat, mais c'était important de l'ouvrir dans les grandes gueules du sport. 10h25. On se retrouve dans quelques instants pour de la Formule 1. Le premier Grand Prix de la saison, c'était hier, et les Alpines ne vont pas bien, pas bien du tout. Pour quelle raison? On en parle dans quelques instants dans les grandes gueules du sport avec Jean-Luc Roux.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h29 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin David Douillet, Fred Weiss, Jérôme Pinault, Simon Dutin et Jean-Luc Roy, le King, qui nous rejoint dans le studio RMC. Salut Jean-Luc.
Salut.
C'est ta première radio, toi, Jean-Luc?
Eh ben oui, c'est pas. Non, mais d'habitude je la mets moi-même. Si tu veux, j'allume le rouge. Mais là, je vois que nous avons un esprit qui veille sur nous. Donc c'est formidable. Voilà, on peut se
mettre. Ici, t'as plus besoin.
Merci de m'accueillir dans cette magnifique émission.
Les grandes gueules du sport, tu le sais. Ravi de te retrouver avec toi. On va débriefer dans quelques instants le premier Grand Prix de la saison et notamment le mauvais résultat des Alpines. 11h45. Je vous donne ce rendez-vous. Ça s'appelle les GG contre-attaque. Vous le savez, mes GG cette saison. Vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. C'est à vous, les auditeurs, de choisir pour votre débat préféré. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique. Donc à 11h45, 20 secondes. Fred Weiss, tu proposes quoi?
Mais je propose Victor Wembanyama. Quand les Spurs ont drafté Victor Wembanyama, ils pensaient avoir un diamant brut, sauf qu'ils avaient le Yukunkun. C'est-à-dire qu'il était déjà d'une valeur inestimable et qu'il va très très vite, qu'il va peut-être trop vite pour ses Spurs.
Il était sous le klaxon aussi, ou?
Oui, il était caché sous le klaxon, exactement. Je vois que les anciens connaissent la référence. Je me pose la question, est-ce que Victor Wembanyama ne va pas trop vite pour cette franchise des Spurs qui est plutôt conservatrice?
Ok, est-ce qu'il va trop vite, Wemby? Très bon débat, c'est la proposition de Fred Weiss. David Douillet.
Moi, j'ai envie de vous parler du carton bleu qui a eu ces dernières heures, une fin de non-recevoir de la part de la FIFA, de la part de Gianni Infantino. Moi, je trouve que c'était une bonne idée parce que ça permettait d'avoir une phase intermédiaire avant le carton jaune et le carton rouge pour régler des problèmes récurrents dans le foot, comme des phases d'anti-jeu, des réactions jugées trop agressives ou excessives. Et ben voilà, tout ça a été balayé d'un revers de la main de la part de la FIFA. Je trouve que c'est dommage.
La fin du carton bleu avant d'avoir existé, c'est la proposition de David Douillet. Simon Dutin.
Je vais pas dire que les autres sont des corneaux, hein, évidemment, ça, pour filer la métaphore.
Pas mal.
Moi, j'ai appris cette semaine que on allait renforcer, muscler un petit peu les contrôles antidopage pour les sportifs russes et biélorusses. Vous savez, finalement, invités aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je m'étonne de cette déclaration, de cette mesure. Pourquoi les contrôler encore plus? C'est-à-dire, les autres, on va les contrôler moins? Ou bon, je m'interroge sur l'opportunité de cette mesure. Alors, soit fallait pas les inviter, soit faut les traiter comme les autres, ces sportifs sous bannière neutre. Donc, est-ce que cette mesure vous semble justifiée ou est-ce que c'est une nouvelle preuve de l'hypocrisie du CIO?
Ok, c'est la proposition de Simon Dutin. Allez voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Jérôme Pinault.
Eh bien, moi, je vais vous parler de la saison cycliste, évidemment, qui vient de redémarrer il y a une semaine. Et déjà, les deux phénomènes, les deux extraterrestres, que soit Vingegaard sur le Grand Camino la semaine dernière, 4 étapes, 4 victoires, 4 minutes d'avance au général sur le second. Et hier, première course de Tadej Pogacar cette année, 83 km d'échappée en solitaire sur l'Estrade Bianche sous la pluie. sur une course ultra difficile. Le deuxième est à 3 minutes parce qu'il s'est relevé pour faire de jolies photos dans le final. Va-t-on assister à un duel incroyable? Va-t-on assister à une domination de ces deux-là? Ou alors un début de critique et de scandale dans le vélo? J'ai envie d'en parler un peu.
Ok, vous avez 4 débats, on n'en choisira qu'un, ce sera 11h45. Pour tous ceux qui avaient encore un léger doute, il a été levé hier. Max Verstappen redémarre sur les mêmes bases que la saison dernière. Le Néerlandais a triomphé lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Et les Alpines dans tout ça, c'est cata. Ocon et Gasly étaient partis tout au bout de la grille, 19e et 20e. Finalement, les deux pilotes français ont terminé 17e et 18e. Youpi, j'ai envie de dire. Pour Pierre Gasly, c'est un bon Grand Prix. C'est la punchline des GG chez nos amis de Canal+.
RMC, la punchline GG.
Malheureusement, ça reflète un peu la performance de ce week-end. On a exécuté une bonne course. On a essayé des choses différentes en termes de stratégie. On le sait, il y a du travail, il y a des investigations. Je sais que l'équipe travaille beaucoup là-dessus pour s'améliorer. Et à l'avenir, ça sera important quand on va se rapprocher plus des points. Mais après, sinon, le reste, je pense que la course, elle a été bien exécutée. On manque juste de performance, malheureusement.
La course a été bien exécutée. Notre but, c'est de se rapprocher des points. Notre question, faut-il déjà faire une croix sur Alpine cette saison? Oui ou non? Fred Weiss?
Oui.
Simon Dutin?
Oui, je le crains.
Jérôme Pinault?
Non.
David Douillet?
Malheureusement, oui.
Jean-Luc Roy?
Oui, je le crains.
Oui, tu le crains. Jean-Luc, tu vas écouter rapidement les copains et ensuite la science de Jean-Luc.
Ah oui.
Mais déjà, votre avis sur cette question. Jérôme Pinault, pourquoi non?
Non, moi j'ai dit non parce que c'est tellement dominé par Verstappen que c'est la seule chose qui va m'intéresser. De regarder ce que va faire Alpine et comment ils vont progresser. Alors, ils partent de loin, ils peuvent que progresser. Mais quelque part, on en avait parlé lors d'un dernier débat F1, c'est tellement fait d'avance. On sait qui va gagner. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de suivre nos Français, Cocorico. J'ai envie de les suivre, voir ce que cette écurie, comment elle va faire pour progresser. Ils partent de loin. L'ingénieur a démissionné.
Ouais, il y en a deux qui sont
gagnés. Donc, on part de très loin. C'est cool. C'est à la française. On part, on se met dans la merde. Et on va faire mieux. Voilà. C'est cool. Moi, je vais
le coq, le symbole du coq, hein.
Exactement.
Le seul animal qui chante les deux pieds dans la merde.
Exactement.
Le problème, Jérôme, c'est que les 17e et 18e, on les voit pas beaucoup.
Non, mais on s'en fout. Ça, Simon, tu regardes. Celui que tu vas voir, c'est Max Verstappen. Regarde, tu vas voir tous les grands prix, c'est le même. Donc,
alors, je demanderai tout à l'heure à Jean-Luc, parce que moi, il m'a semblé que il y a au moins une des deux Ferrari qui, en début de course, pouvait tenir le rythme des Red Bull. Mais c'est vrai que 17 et 18, avec le tour de retard, c'est symbolique. Tu sais, quand tu te fais prendre un tour en F1, c'est quand même toujours un peu la honte. Sixième du classement des écuries l'an dernier, on était déjà déçus. La belle histoire, le narratif, les deux pilotes français dans la voiture bleue, ça marche pas, ça fonctionne pas, ils peuvent pas se piffrer les deux, ou en tout cas c'est quand même pas l'entente cordiale.
Ça n'a jamais empêché en Formule 1 de s'entendre et de faire des
boosté, en effet, c'est bien de le préciser. Ces deux mecs quand même, Gasly et Ocon, qui ont prouvé qu'ils pouvaient faire beaucoup avec pas grand chose, mais si tu leur donnes vraiment rien, ça va
être une nouvelle bagnole, ça va démarrer, c'est un nouveau projet, nouvelle auto.
Où est le développement de Renault? Où sont les ingénieurs Renault qui développaient le meilleur moteur à une époque? Ils sont passés où, les moyens? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question de savoir-faire? Bon, force est de constater que il n'y a rien. Renault, il devrait être au moins dans le top 4, je pense.
Et puis, mais c'est ce qu'ils visaient.
Où ils étaient en 2022.
Hein, il faut t'as la télé Novella, mais là, on est sur une nouvelle ère. On est sur une nouvelle page en 2024.
Simon termine.
David Brivio qui quitte l'écurie en fin d'année. Auparavant, il y avait le Safnauer qui s'était fait virer. Il nous avait dit, mais moi, on m'avait vendu un projet sur 100 courses. Et au moment où il part, il dit, c'est dommage, ils m'en ont laissé le tiers pour faire mes preuves. Je pense qu'il y a un problème de stratégie en plus haut lieu. Est-ce que Renault a encore envie d'exister en F1? Je pense que c'est ça la vraie question.
David Douillet.
Il y a un truc qui m'a atterré, parce que Simon a bien résumé la situation. C'est que j'apprends que la voiture, enfin, Claude va peut-être m'infirmer ou confirmer, que la voiture est trop lourde. Sans déconner.
Elle a 10 kilos trop, c'est
la voiture. Mais c'est pas possible. La voiture est trop lourde. Il y a des mois de préparation. Tout le monde sait comment ça fonctionne, etc., etc. Y compris, même s'il y a des ingénieurs qui s'en vont, etc. Il y a des gens de grande qualité dans ce staff chez Alpine. La voiture est trop lourde. Et aux essais, elle est la dernière. Et nos deux Français se battent avec leurs moyens pour donner le maximum. Mais une voiture trop lourde. Mais c'est l'échec de l'écurie. C'est pas l'échec des pilotes. C'est dramatique. dramatique. Enfin, je veux dire que c'est honteux, honteux de mettre sur le plateau aujourd'hui une voiture qui est trop lourde. On est là à riser, les gens, ils doivent se marrer. Enfin, je sais pas si ce qui se passe, mais c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est pas possible. On peut pas être dans un sport aussi technique, aussi technologique, aussi pointu en affichant une bagnole trop lourde qui n'avance pas, qui prend une demi-seconde par rapport à l'avant-dernier. Enfin, c'est du délire.
Avant Fred Weiss, juste.
Je peux pas passer derrière.
Ça nous arrive tous, t'inquiète pas. Jean-Luc Roy, déjà essaye de répondre à ce que tu viens d'entendre.
Écoute, pour ce qui concerne Jérôme, c'est un vœu pieux. Moi aussi, pour clairement, on appelle de tous nos vœux le fait qu'Alpine rebondisse. Et le seul espoir que l'on peut caresser, comme on dit dans ces cas-là, c'est qu'effectivement il y a une réaction et qu'il trouve une évolution, de nouvelles pièces. Mais bon, avec Matt Harman et Dirk De Beer qu'on les a évoqués, qui partent là encore, oui. Ça commence à faire beaucoup. Puis je te dis, il y a 8 à 10 personnes de haut niveau qui sont parties de chez Alpine en l'espace de 6 mois. Donc c'est vraiment très lourd. Donc ce que disait effectivement David à l'instant. Bon, c'est voilà, ça, on espère tous, c'est pas, oui. On se replie. Non,
mais moi, ce que je te dis, c'est que ça va me faire espérer, en fait. Ça va me faire suivre ce sport. Ben,
mais ça veut pas dire qu'il existe pour autant, hein.
Mais non, faut être sérieux, c'est pas sérieux. Voilà, c'est tout.
La question, c'est
est-ce que j'ai dit qu'il était pas sérieux ou c'est Alpine?
Non, c'est Alpine.
Ah. Est-ce qu'il faut déjà considérer, que c'est perdu? Bah, clairement oui, ou alors ce serait une révolution à la McLaren, pour être très précis. C'est-à-dire McLaren l'an dernier, rappelez-vous, en début de saison, n'était pas
démarré très doucement.
Et puis ils ont apporté, ils ont travaillé. Alors ça, c'est de
alors
la magie.
Pourquoi ce serait possible avec chez eux et pas chez nous?
Mais parce qu'il y a une équipe technique beaucoup plus solide et qui n'a pas changé. Le problème, il faut bâtir, tu sais. C'est ce que Fred Vasseur chez Ferrari a fait. Il est arrivé le 8 janvier 2023, donc début de saison et première moitié, on voyait que ça marchait, mais pas. Et puis en fin de saison, il a recruté du monde, et c'est pas toujours des grands noms que l'on connaît, mais il a recruté une équipe, on bâtit en Formule 1, et on bâtit pas comme ça, puisque quand on recrute un ingénieur, normalement, il est dans son jardin, comme on dit, il jardine quelque temps, bon, il peut bosser de chez lui sur son ordi, mais je veux dire, il est pas intégré à l'équipe. Donc il faut
Qu'on n'arrive pas à comprendre, Jean-Luc, c'est comment Alpine s'est retrouvé dans cette situation-là, alors que la saison dernière, ça visait le...
Franchement,
les Alpines voulaient se rapprocher
déjà
à la base,
qu'ils soient au moins quatrième,
ils voulaient se rapprocher des Ferrari, on en était là, quoi.
Si tu veux, là c'est un problème de com. Là j'y vais carrément parce que les gens de la com, moi je les trouve nuls. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on a fait dire aux pilotes sans arrêt en tant qu'équipe et tout. Bon, c'était grotesque.
Est-ce que cet hiver on n'a pas recruté du côté de chez Alpine, on n'a pas recruté au Paris Saint-Germain, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur les mêmes dossiers.
Mais est-ce que le problème, il n'y a pas depuis le départ d'Abit Boul finalement, depuis qu'il est plus là, est-ce que ça manque de stabilité? Parce que quand je vois comment ça commence la saison, t'as le directeur technique, t'as le responsable d'aérodynamique qui sont vont c'est juste grave. Après les essais, mais sur le simulateur. C'est-à-dire qu'en gros, sur le simulateur, ils se sont dit déjà, c'est mort,
c'est foutu.
On se barre. Franchement, c'est très inquiétant.
C'est gravissime,
quand même.
C'est pour ça que c'est très inquiétant. Encore une fois, on souhaite tous qu'ils redressent la barre, mais comment? La question, c'est comment? Comment peuvent-ils apporter, bon, à Jeddah, c'est un peu court, mais par la suite du championnat, des évolutions qui leur permettent un coup à la McLaren, voilà, pour reprendre.
Mais comment réduire le poids déjà? Comment t'arrives, je suis d'accord avec David, comment t'arrives avec 10 kilos de trop? Comment tu réduis?
C'est inadmissible.
c'est vraiment pas sérieux.
Moi, je me bats pendant des années pour faire plus que 10, mais je me bats. Comment ils vont faire eux?
On a conservé que le volant, c'est une toute nouvelle monoplace. Je suis d'accord avec vous. C'est inadmissible. Quand tu sais que 10 kilos sur un circuit moyen, c'est déjà 3-4 dixièmes de perdu.
C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas sérieux. Et déjà que les voitures, maintenant, c'est des tanks. Moi, je le dis tout le temps. Par rapport à
ce qu'on
a pu. Elles sont très lourdes. À cause des batteries, etc. Elles ont pris 250 kilos avec la nouvelle réglementation en 2014. Les pilotes s'en plaignent. Alors après, ça jaillit sur les pneus. Parce que quand t'as un camion comme ça, tu flingues les pneus. Donc là, t'as un phénomène, si tu veux. Alain Prost avait été viré de chez Ferrari, vous rappelez, en disant je pilote un camion.
Oui.
Là, il pourrait le dire.
Dernière question, mon Jean-Luc. Est-ce que entre Esteban Ocon, Pierre Gasly, ça peut devenir compliqué d'être dans les bas-fonds du classement, quoi? Parce que ils n'ont pas envie de ça.
Les pauvres, t'as vu les déclarations. Puis tu sais, le fameux body language, la fameuse attitude des yeux. Je te jure, moi je les connais bien, ils n'ont plus l'étincelle dans les yeux. Ils essaient de l'avoir. Évidemment, les pauvres, ils ne vont pas dire ça y est, c'est le premier Grand Prix, c'est foutu.
Comme tout sportif qui va au départ d'une compétition.
Jean-Luc, moi j'ai une question.
Tu te dis, je vais gagner.
Avec les baquets qui vont tous, et à la fin de la saison, on sait que tous les baquets vont bouger.
Ah oui, bah oui.
Est-ce que ça peut les inciter à quand même continuer à y
performer? Ils sont en fin de contrat, les deux, hein,
d'ailleurs. Oui, ils sont en fin de contrat, tu sais que ça va bouger. Ça va être les chaises musicales. Est-ce que ça peut avoir une influence sur ça?
Bah, évidemment. Je vais te dire, là, ils vont se battre comme des chiens, ne serait-ce que pour ça, pour essayer de se mettre en évidence et de trouver un bon baquet pour 2025.
Justement.
Est-ce qu'il y en a un des deux qui peut rebondir chez Mercedes à la place de
Hamilton? Eh ben oui. Esteban Ocon, il est cité quand même régulièrement. Tu sais qu'il est manager. Voilà. David par Toto Wolff, effectivement, et puis il n'a rien perdu de ses qualités. Donc là, il se challenge les deux. Vous avez vu à quel point ils sont serrés. Hein.
Ouais,
les deux ont remporté un Grand Prix. Ils ont vraiment des carrières parallèles. Les deux Normands, enfin toute l'histoire. Ben celui qui sera devant l'autre, il a peut-être une chance, et notamment chez Mercedes. Tu as raison de le souligner. Pour Ocon, on peut croiser les doigts. Et c'est dur de dire ça parce que ça voudrait dire qu'il quitte l'équipe française. Donc là.
Et parfaite transition, car ce soir à partir de 19h dans Bartoli Time avec Marion Bartoli, interview exclusive avec Fred Vasseur, le patron de Ferrari. On parlait d'un manquant désormais, d'un baquet à prendre chez Mercedes, car Lewis Hamilton va aller chez Ferrari. Interview exclusive, extrait. On pose la question avec Marion Bartoli à Fred Vasseur sur pourquoi pas, est-ce que c'est son rêve de voir Hamilton un 8e sacre chez Ferrari?
Mon rêve, je sais pas, j'en rêve pas la nuit, hein, faut se calmer, mais c'est sûr que ça serait quelque chose d'exceptionnel, mais comme un titre avec Charles Leclerc, hein, c'est pas, ou avec Carlos Sainz, hein, c'est pas un titre en soi est magique. C'est sûr que celui qui, si Lewis vient gagner le 8e titre, que ce soit avec nous ou avec un autre, ça restera dans l'histoire de toute façon, ça sera déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, alors c'est sûr qu'avec nous, ça sera encore plus beau.
Fred Vasseur qui va tout vous raconter sur ce transfert du siècle Hamilton chez Ferrari à partir de 19h, donc avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. Merci beaucoup Jean-Luc.
Mais c'était un grand plaisir.
Un podcast super. F1 donc à
mais
retrouver.
Absolument.
Tous les dimanches.
Dès demain lundi. Oui, on revient sur tout ça en détail. Bon, il y a quelques infos et puis on n'a pas la langue de bois non plus. Donc
exactement.
On s'est un peu lâché.
C'est pour ça qu'on t'aime, mon cher Jean-Luc. C'est le paddock RMC aussi, et c'est bien. À retrouver sur rmcsport.fr. Merci beaucoup Jean-Luc.
Merci
d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport. 10h44. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le zapping, on s'en fout pas. J'ai notamment du Paris-Nice, j'ai du Marseille qui a battu Clermont 5-1. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, toujours avec David Douillet, Fred Weiss, Jérôme Pinault, Simon Dutin. À partir de 11h, on ouvre le dossier Julien Alaphilippe qui a encore chuté, abandonné hier. Patrick Lefebvre l'a-t-il tué? Vous n'êtes pas d'accord sur cette question, mais GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est les grands débuts de Paris-Nice aujourd'hui. On s'en fout pas, Jérôme Pinault.
On s'en fout pas, évidemment.
Simon Dutin.
Bien, on s'en fout pas.
Ok, Fred Weiss.
Je m'en fous.
David Douillet. David ?
Je m'en fous pas.
Ah ok, la 82e édition de Paris-Nice s'élance donc aujourd'hui des Mureaux dans les Yvelines. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ne seront pas de la partie. On retrouve tout de même notre envoyé spécial, lui il est là, c'est Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
Salut.
Alors
salut,
en l'absence des deux stars, je le disais, qui sont les favoris pour ce Paris-Nice?
Eh bien, l'absence de Pogacar et Vingegaard, vainqueurs quand même des 4 derniers Tours de France, ce sont ceux qui tenteront de leur mordre les mollets cet été. Primoz Roglic et surtout Remco Evenepoel, que l'on trouve tout en haut de l'affiche. Le Belge Evenepoel, favori numéro 1, même net vainqueur du Tour d'Algarve mi-février, aimerait gagner, il l'a dit hier en conférence de presse. Un Paris-Nice particulier pour lui, car en dépit de ses 53 victoires en pro, il n'a presque jamais couru dans l'Hexagone et dispute cette semaine sa première course à étapes sur le sol français. Quant au Slovène, Primoz Roglic, vainqueur en 2022 de Paris-Nice et du Giro l'an passé, c'est un favori naturel, incertitude toutefois puisqu'il court pour la toute première fois pour sa nouvelle équipe Bora Hansgrohe après 8 ans passés chez l'ogre néerlandais Visma Lease Bike. Qu'en est-il de son état de forme? Les premières étapes souvent piégeuses de Paris-Nice en diront peut-être déjà plus. Et puis voici quelques outsiders quand même. Bernal, le Colombien, qui semble-t-il revient en forme après 2 ans de galère. Almeida, le Portugais, les Américains McNulty et Matteo Jorgensen. Et puis côté français, David Godu est là mais en petite forme, peinera sans doute à rééditer sa deuxième place de l'an passé.
Merci beaucoup Arnaud Souk, c'est à suivre évidemment tout au long de la semaine et dès cet après-midi sur RMC avec toi au commentaire, notre spécialiste vélo. Jérôme Pinault, une raison pour laquelle il faut regarder Paris-Nice cette année?
Bah parce qu'il y a la troisième, le troisième phénomène du cyclisme. Alors il manque le quatrième Van der Poel, mais Remco est là. Remco, première course en France, première course par étape en France depuis qu'il est professionnel. Sa dernière course datait du circuit du Morbihan Junior quand il est venu courir en France.
Oui, parce qu'on rappelle qu'il vise le Tour de France cette année pour
la
première fois.
Il vise le Tour de France, donc il vient humer l'air français, il vient prendre possession des routes françaises, de la façon de courir en France, du public français, c'est important aussi. On regarde le sport pour les stars, pour les grandes stars, les méga stars. On regardait le basket pour Fred Weiss. On va regarder Paris-Nice pour Remco Van der Poel. Il est là, il est archi favori. Et on a envie qu'il tape un grand coup parce qu'on a envie qu'il nous rassure un peu sur le fait de pouvoir titiller les deux autres monstres que sont Vingegaard et Pogacar. Donc on a hâte que ça commence. Dès aujourd'hui, première étape, Arnaud en a peu parlé. Le parcours est pas simple. On peut déjà voir un duel entre Roglic et Remco Van der Poel aujourd'hui.
Ok, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'OM qui continue sa remontée fantastique. On s'en fout, on s'en fout pas. Après le veille.
On s'en fout pas.
Ok, David Douillet.
Je m'en fous.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
Impossible de se foutre de l'OM. On s'en fout pas, évidemment.
Marseille confirme son regain de forme depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset en enchaînant une troisième victoire de rang, toute compétition confondue. C'est donc hier soir sur la pelouse de Clermont, victoire 5-1, un net succès qui permet aux Marseillais, et ça c'est important, de retrouver provisoirement le top 6. Jean-Louis Gasset après la rencontre.
Bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence. Chaque fois que je leur mets un examen, je leur dis juste faites ça, montez une marche de plus. Et ils y arrivent, ils sont heureux. Vous aurez vu le vestiaire là, ça chantait, c'était joyeux. Voilà, tout le monde est content. Continuez cette progression là parce que tout n'est pas parfait.
Simon.
J'ai suffisamment critiqué l'opportunité de choix de Jean-Louis Gasset pour mettre un genou à terre et faire mon mea culpa. Il a réussi sa mission. Je reste persuadé que le Shakhtar, Montpellier et Clermont, c'est des matchs que l'OM aurait pu remporter avec l'entraîneur précédent, Gattuso. Voilà, crédit malgré tout à Gasset. On a retrouvé une équipe, ça met des buts. Dans le jeu, c'est vraiment mieux. Voilà, Gasset confirme que... sa spécialité, on la connaît, c'est soigner les têtes et redonner confiance aux joueurs. Il a réussi sa mission et voilà, bravo. L'OM a un bel effectif, on l'a suffisamment souligné. Il a réussi sa mission, bravo, bravo.
Ben ça prouve surtout que qu'un bon manager, c'est hyper important dans le sport. Il y a pas que le sportif, il y a aussi le manager. Et il faut quand même noter, j'ai lu ça, alors j'espère ne pas me tromper, que ça faisait 62 ans qu'un entraîneur à l'OM ne débutait pas par 3 victoires. Donc c'est quand même un vrai record, un truc un peu sympa. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'OM qui en plus, effectivement, offensivement, est très intéressant.
Jérôme, personnel, merci. Ou t'as un truc à rajouter?
Non, la très bonne nouvelle aussi, c'est qu'on retrouve les cadres de cette équipe. Et quand on sait parler à ces cadres de la bonne des manières, eh bien, ils reviennent, puisque Jonathan Clauss a fait un match extraordinaire hier.
Attention avec le micro, tu caresses le micro
Jonathan Clauss a fait un très très beau match hier, noté 8 chez nos confrères de l'équipe, avec un OM qui a besoin de lui pour progresser. L'équipe de France va aussi avoir besoin de lui. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde que l'OM gagne des matchs. De toute façon, c'est toujours une bonne nouvelle pour notre Ligue 1. Et pour moi, puisque je suis un fervent supporter de ce club.
Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Hugo Humbert qui s'offre le tournoi de Dubaï. On n'a pas de spécialiste tennis autour de la table, mais ça peut-être vous intéresser. Jérôme Pinault.
Non, je m'en fous pas.
Ok. Simon.
Je m'en fous pas.
Ok, t'as le droit de laisser, hein, si t'es pas convaincu. Hein. David Douillet.
Ouais, bof.
Ok.
Air zapping on pour passe. David.
Je m'en fous pas.
Hugo Humbert a donc remporté un 6e titre en carrière pour autant de finales disputées. C'est ça qui est assez incroyable pour le Français, qui a donc remporté cette étape 500 de Dubaï hier face à Alexander Bublik. Hugo Humbert va grimper au 14e rang mondial. Ce n'est donc pas anecdotique. On va l'écouter après cette rencontre. J'espère juste qu'il ne va pas dire que c'est juste incroyable pour lui.
Ouais, c'est juste incroyable pour moi de gagner ce tournoi avec tous les noms qu'il y a sur ce trophée. Voilà, dès qu'on rentrait sur le court, je voyais tous les vainqueurs entre les Federer, les Djokovic, Murray. Donc franchement, je suis très heureux et très fier de pouvoir mettre mon nom à côté d'eux. Et puis forcément, j'ai passé une semaine magnifique, c'était incroyable.
Bon, voilà, c'est raté pour cette fois-ci, il l'a dit, mais en tout cas, c'est incroyable.
À 14e mondial, on a raison de le souligner, c'est plus tous les jours tout de même qu'on se hisse à ces altitudes-là. Et puis, bon, voilà, il n'a pas battu n'importe qui au passage. Hein. Monfils, Urquaz, Medvedev, avant d'arriver en finale.
Deux joueurs du top 10, hein,
on en parlait, ouais, et on en parlait hier dans les coulisses avec Julien Bento, qui disait Hugo, il arrive à hausser son niveau de jeu quand l'adversité, plus les mecs sont forts, plus il est bon en face. Donc, il ne reste plus qu'à, je pense, régler un petit problème de mental, si j'interprète bien l'analyse de Julien, et à ce titre-là, c'est prometteur pour la suite.
Ouais. Non, moi, je trouve cette nouvelle très bonne pour le tennis français. On a besoin de gagner des tournois, les Français ont besoin d'en gagner.
On s'inquiétait il n'y a pas longtemps, justement, du niveau du tennis, et on est plutôt rassuré de ce qu'on voit.
Et on donnait aussi un peu d'importance à certaines prises de parole pour le choix des coachs en coupe. Humbert gagne des tournois, il gagne des tournois 500, c'est quand même pas rien. Gagner des tournois, c'est jamais simple en tennis, on le sait. Et en plus, il intègre le top 15 mondial. Et quand on est dans les 15 premiers mondiaux de son sport, on commence à causer, quoi. Et c'est une très très bonne nouvelle pour le tennis français. On sait toujours dans ce sport-là, notamment, une locomotive. Quelqu'un qui gagne pour donner envie et relancer un peu un cycle. Là, c'est une très bonne nouvelle.
Je reprends la main, il me reste quelques secondes, donc j'ai le temps de vous parler un petit peu de golf, même si ce sera pas, on s'en fout pas, parce qu'évidemment ça va de soi, personne ne s'en moque. Sachez que il y a un tournoi actuellement sur le circuit PGA, ça s'appelle le Conisian Classic, et il y a deux Français qui sont très très bien placés. Il y a Victor Pérez qui est quatrième avant le dernier tour ce soir, et Mathieu Pavon qui est quatorzième, donc il est également dans le coup. Et on note aussi la très belle prestation de Céline Boutier sur le circuit féminin, qui a donc terminé deuxième. Simon, on débrief tout ça dans le podcast Golf, le Practice RMC dès demain.
Dès demain, évidemment. Et ouais, Céline, elle est passée pas loin du bol de ponche. Hein. C'est dommage, elle serait passée numéro 1 mondial si elle avait gagné. On espère, on l'attend toujours, invitée dans le Practice. Hein. L'invitation, c'est à du se perdre.
ça arrivera.
Mais en tout cas, Français, la semaine dernière, on a eu Mathieu Pavon. Voir des français dans les classements, tu sais, qui apparaissent, les incrustes qui apparaissent sur les écrans américains, c'est quand même du jamais vu, et on se régale.
Et Mathieu Pavon était notre invité lundi dernier, donc n'hésitez pas à aller réécouter en podcast, lui, le champion français, voilà, pour le Practice RMC, à retrouver dès demain, c'est disponible toutes les semaines. 10h56, on se retrouve pour du vélo, cher à notre ami Jérôme Pinault.
C'est pas tellement du vélo, là. Ça va aller un peu plus loin que le vélo.
Patrick Lefebvre a-t-il tué Julien Alaphilippe? On se pose la question. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.